Le garçon disait au téléphone « On entend les avions ». Nous attendions. Soudain, nous avons entendu leurs vrombissements qui enflaient dans le ciel de la même façon que j'avais entendu leurs vibrations au-dessus de l'Angleterre pendant des missions semblables.
Saint-Malo, août 1944.
Le bâtiment dans lequel nous étions, ainsi que tous ceux qui se trouvaient en face du fort, était maintenant criblé d'obus. Bing-bang. Atterrissant au-dessus de notre fenêtre, atteignant celle d'à côté, brisant un balcon au-dessous. Un son bref, étrange. L'impact précède le bruit du canon. À nouveau le même son mat. Des centaines de salves concentrées sur la zone où nous nous trouvions. La mitrailleuse de la dernière casemate fit feu. Les hommes se jetèrent à plat ventre, trébuchant et se traînant vers l'abri des cratères d'obus. Certains rampaient, d'autres se précipitaient sur la gauche pour sortir de l'angle de tir. Un homme atteignit le sommet. Il était immense, noire silhouette aux épaules carrées qui se détachaient dans le ciel, entre la casemate et le fort. Il leva le bras. C'était le geste d'un officier de cavalerie brandissant son sabre pour faire signe aux autres de le suivre. C'était à la mort qu'il faisait signe.
Grande traversée, 8 000 heures.
Ça, c'est un cliché de Saint-Malo. C'est une botte militaire allemande d'où sort une bande de mitrailleuses. Même dans les circonstances les plus difficiles, Lee trouvait des éléments surréalistes. Même au cœur de la bataille, elle voyait quelque chose et elle se disait « Oui, ça c'est surréaliste. »
Hilary Roberts.
Pour comprendre Lee Miller, il faut prendre en compte toute son expérience de vie. On la réduit souvent à son statut de mannequin, de muse, de photographe de mode, ou de cuisinière. On lui colle des étiquettes. Si vous prenez n'importe laquelle de ces étiquettes isolément, vous ne pourrez pas comprendre la vraie Lee Miller. Il faut regarder l'ensemble pour vraiment appréhender qui elle était, comment elle est en arrivée à faire les photos qu'elle a faites et pourquoi. Son travail avec Man Ray, son expérience en tant que mannequin pour Condé Nast, ce sont autant d'inspirations qu'on retrouve dans ses reportages de guerre. Elle les a adaptées et elle les a utilisées pour faire des photos vraiment saisissantes. Il y a un cliché qu'elle a pris à Saint-Malo en 1944 qui fait beaucoup penser à Man Ray. Si elle n'avait pas travaillé avec Man Ray comme elle l'a fait, cette photographie n'aurait jamais existé. Elle l'aurait prise totalement autrement. On y voit une botte de l'armée allemande couchée dans une rue de Saint-Malo avec une ceinture de munitions qui en émerge. Au premier coup d'œil, ça ressemble à un squelette. C'est la mort. Sauf qu'en fait, ce sont simplement des objets inanimés, juxtaposés de façon accidentelle par la guerre. C'est la nature aléatoire de la guerre. Ces deux objets ont été réunis par une explosion et elle les a vus.
Le photographe David Sherman est avec elle. Ils avancent ensemble. Il prend une photo de Lee Miller parmi les soldats américains. Elle est habillée comme eux, un treillis, ses cheveux relevés dans un casque, son roller flex en bandoulière. Ils sont postés dans les gravats de Saint-Malo, observant l'ennemi.
Lee n'était pas la photographe de l'instant précis, comme était Cartier-Bresson, grand maître du bon moment. Lee était la reine du placement. Placer une chose à côté d'une autre et y voir l'incongru, l'existentiel. C'était son talent. L'humour était très important pour elle en photographie. L'incongru est la base de l'humour. Et Lee était avant tout une personne très drôle. Elle était amusante, elle avait le sens de l'humour, elle aimait les blagues, le plaisir. C'était la base de sa vie, s'amuser. Si quelque chose n'était pas drôle, elle ne voulait pas le faire. La guerre était drôle pour elle, d'une certaine façon.
Elle a été obligée de développer les images de Saint-Malo sur place parce qu'à ce moment-là, les Alliés n'autorisaient pas l'envoi de rouleaux de pellicules. Elle est donc allée dans un laboratoire photo. Étant donné qu'elle lisait le français et qu'elle connaissait le système métrique, c'était facile pour elle. Elle a développé les premières pellicules et les a envoyées sous forme de négatifs pour que la censure puisse les examiner et constater qu'elles ne contenaient aucune information sensible. Sauf qu'il y a eu un problème. Sur certains clichés du bombardement de Saint-Malo, on voit une sorte d'énorme nuage en champignons semblable à une explosion atomique au-dessus de la forteresse. C'était un des premiers bombardements au napalm. Le napalm n'avait été utilisé que deux ou trois fois auparavant. C'était une arme secrète et très meurtrière, une bombe incendiaire. Le napalm étant sous forme liquide, quand ils ont largué la bombe sur les fortifications, il s'est infiltré dans les canaux de ventilation, où il s'est enflammé en aspirant tout l'oxygène. Les pauvres types qui attendaient dans la forteresse, persuadés d'être à l'abri des puissants explosifs qu'on leur larguait dessus depuis une semaine, ont soudain vu des flammes sortir. C'est à ce moment-là qu'ils ont décidé de se rendre, parce qu'ils étaient coincés dans une forteresse pleine d'explosifs et qu'ils n'avaient pas envie de mourir étouffés ni de voir le bâtiment prendre feu. Ils ont renoncé. Mais le napalm était encore top secret. Au bout du compte, une fois développé, les photos ont été envoyées à la censure militaire qui les a confisquées et n'a jamais voulu les rendre. C'est totalement par hasard qu'elles ont été retrouvées vers 1980. Et on a fini par les récupérer. C'est une histoire vraiment extraordinaire. Ces photographies qui avaient été interdites à la publication n'auraient sans doute jamais été retrouvées si on n'avait pas eu un coup de bol.
N'y avait-il pas une règle qui interdisait la présence des femmes près des combats ?
Si, en effet, j'ai bien failli passer en cour martial pour m'être trouvée là où je n'étais pas censée être. Mais franchement, Anna, ce n'était pas ma faute.
Vous avez levé les yeux et il y avait une bataille.
Presque. Quand j'ai été autorisée à traverser la Manche, c'était peu de temps après le débarquement. Je suis partie sur ces navires amphibies qui débarquaient des chars. Les ordres ont changé à mi-parcours.
Où a-t-il débarqué ?
Sur une autre plage, au beau milieu d'un siège.
Et justement, vous aviez votre appareil photo ?
Bien sûr, j'ai pris des photos. Que faire d'autre quand on vous sert une bataille sur un plateau ?
Après Saint-Malo, elle a été arrêtée. L'armée l'accusait d'avoir enfreint les termes de son accréditation en se rendant dans une zone de combat. Et donc, ils l'ont assignée à résidence pendant 4 jours ou quelque chose comme ça. C'était très bien, ça lui a donné le temps d'écrire son article. Et elle est sortie juste à temps pour voir le général de Gaulle arriver ici, à Rennes. Elle l'a photographié et bien sûr, c'était un moment exceptionnel. Ça, c'est dans une petite école dans l'arrière-pays de Saint-Malo. Ces types ont sorti des cartes qu'ils ont punaisées au mur et ils sont en train de préparer la prochaine offensive. Il y avait beaucoup d'éléments à prendre en considération à l'époque. Ces images ont été développées et publiées par Vogue à Londres. Il y a là un tampon qui dit « Approuvé pour publication par la censure militaire du Shaif ». Le Shaif, c'est le quartier général des forces alliées. Ce sont eux qui l'ont transmis et ça signifiait que la photo pouvait être publiée.
Prise dans l'engrenage de la guerre, Lee Miller ne date pas ses textes ni ses lettres. Elle est à Orléans. au mois d'août 1944.
Plusieurs vues depuis l'autre rive de la rivière montrant les rampes installées pour permettre aux civils et aux prisonniers de traverser, et quelques-unes prises à l'hôtel de ville. Une ou deux montrant la foule attendant l'entrée de De Gaulle à Orléans. Il était en retard, comme d'habitude. Je ne l'ai pas attendu.
Octobre 1944.
Paris était devenue folle. Ses longues avenues dignes et gracieuses s'étaient emplies de drapeaux, de cris, d'étreintes et de gens beaux. Filles, bicyclettes, baisers, vins. Et au coin de la rue, un tank en flamme. Une grenade qui explose. Les impacts de balles sur les vitres étaient comme des bijoux. Les fils barbelés sur les boulevards, une décoration nouvelle. Les Parisiens ont fait de leur semaine de guerre une fête fantastique. Les enjeux, c'était la vie et la mort, comme depuis quatre longues années. Mais ils se sont battus avec gaieté, irresponsabilité et des fleurs dans les cheveux. J'étais épuisée d'avoir serré tant de mains. Tout le monde voulait serrer la main de la femme soldat. Partout dans les rues, les filles étaient éblouissantes. Sur des vélos ou perchées sur les tourelles des tanks. Leur silhouette était étrange et fascinante pour moi, après ces années d'austérité en Angleterre. Jupe ample, taille fine, cheveux gonflés façon pompadour au-dessus du front, et tresses ondulantes dans le dos. Elles étaient lestées au sol par des chaussures compensées à semelles épaisses en tout genre. Toute la démarche de la femme française était modifiée par ce qu'elles avaient désormais aux pieds. Disparues, leur démarche cambrée et leurs petits pas. Elles font maintenant de grandes enjambées et posent le pied d'un bloc sur le sol. Elles avaient l'air incroyablement jeunes aussi. Surtout parce que le maquillage a changé. Il a manqué et s'est effacé au profit d'un teint plus naturel. Fini la sophistication, le rimel et le fond de teint. Le vernis à ongles était de si mauvaise qualité qu'il avait fini par être oublié, mais il a réapparu pour les jours de victoire. La galanterie à la française a disparu aussi. Les femmes portaient leurs paquets, faisaient leurs maraudes sur leurs vélos, qu'il pleuve ou qu'il fasse beau. Les cheveux lâchés, insouciants. Leurs jupes, gonflées par le vent, ressemblaient aux cloches de la victoire. Curieux phénomène, le changement de l'odeur de Paris. C'était avant un mélange de patchouli, d'urine et de cette huile de castor qui sert de carburant aux motocyclettes. Désormais, du parfum flottait dans l'air, au-dessus des rues et des places. Tous les soldats avaient senti cette odeur et quand on leur demandait ce qu'ils pensaient de Paris, ils ouvraient les yeux et disaient « C'est le plus bel endroit au monde et les gens sentent si bon ». Ils étaient agréablement surpris que les Parisiens soient si élégants et non pas amers et affamés. En fait, beaucoup étaient affamés, et les plus amers étaient restés chez eux. Les autres carburaient aux rêves et à l'adrénaline de la joie.
Quand on examine l'ensemble de ces archives, son taux de réussite, c'est-à-dire la proportion de photos réussies par rapport aux clichés qui ne fonctionnent pas, son taux de réussite est extraordinaire. Quand on sait qu'elle travaillait uniquement avec un Rolleiflex et un flash, c'est remarquable. Elle avait une vision particulière des femmes, presque toujours respectueuse et empathique. Une vision éclairée. Quand on examine ses photos et leurs sous-textes, on a le sentiment qu'elle comprend un peu mieux ce qui se passe dans leur tête.
Understanding of fashion.
Et il y a son sens de la mode. Elle a photographié une Parisienne des forces françaises de l'intérieur à Paris, peu après la libération. C'est un portrait magnifique qui souligne la coiffure de cette femme.
In what we call the victory role.
Ce qu'on appelait alors un victory role.
In Paris at that point in time, many It was very difficult to get your hair cut and the chemicals for curling your hair were not available.
À l'époque, il était très difficile de se faire couper les cheveux à Paris et on n'avait pas accès aux produits nécessaires pour une permanente. Beaucoup de femmes avaient donc les cheveux longs et elles les remontaient sur le haut du crâne de façon à former une sorte de V, le V de la victoire. Cette résistante porte également une robe
dress full of
pleine de plis
and ruffles.
Et de froufrous.
It was very feminine.
C'est une robe très féminine.
But it was also using an enormous amount of material.
Mais aussi très coûteuse
and
en tissu.
That
et
in
ça,
Paris was a statement
à Paris,
of resistance.
C'était un signe de résistance.
This was the way that you could undermine
c'était une façon
the German occupation
d'affaiblir l'occupant allemand en gâchant ses ressources.
So, Lee Miller
donc,
could read
Lee Miller savait lire le langage du corps.
And this woman is not wearing a military uniform, but
cette femme n'est pas en uniforme militaire.
Using fashion and costume
mais elle utilise la mode et sa tenue pour transmettre un message.
This is sort of Lee Miller with her sense of women's fashion and the way women speak.
Et grâce à sa connaissance de la mode et de la façon dont les femmes s'expriment, Lee Miller sait l'interpréter.
Picasso et moi, nous sommes tombés dans les bras. Entre rire et larmes, nous nous sommes donné des nouvelles des uns et des autres, dans le désordre. Les murs de sa maison et de son jardin étaient noircis par les tirs. Pendant la bataille de Paris, il n'a pas cessé de peindre tout en chantant à plein poumon. Il a beaucoup peint ces quatre dernières années, n'acceptant rien des Allemands et s'amusant de nouveaux matériaux. Il a fait un portrait de Nuche sur une serviette de table, un jour après déjeuner, rien qu'avec le jus des fruits et des légumes. Il dit que peindre en temps de guerre était aussi simple que ça, et que c'était plus facile de travailler et de s'isoler qu'en temps normal. Il n'y avait rien d'autre à faire que de travailler, de chercher de la nourriture, d'essayer de voir un ami tranquillement, et d'attendre le retour de la liberté. En déjeunant, nous avons parlé de cette femme tondue, exposée publiquement de façon si cruelle, mais justifiée en même temps. Son personnage et son visage l'ont fasciné et horrifié. Il m'a expliqué que les bordels ont bien fonctionné ces quatre dernières années avec les Allemands, mais que ce n'était pas compromettant tant que c'était tarifé. Il y en a un à côté de son atelier. Cela dit, une fille qui y travaillait est vraiment tombée amoureuse d'un boche. Le jour de la libération, elle a été baladée, tondue, sifflée, huée par ses propres collègues prostituées qui ont diverti un nombre incalculable d'Allemands sans compter.
Another thing is in her photographs that you notice is that
Hilary Roberts.
She understands how important
ces photos témoignent aussi d'une compréhension intime de l'importance des cheveux pour les femmes.
And so she photographs
elle a fait
a woman
une photo d'une femme accusée de collaboration avec les Allemands qui venait de se
and
faire raser la tête.
This was a scene which was also photographed by Robert Capa.
Robert Capa a photographié une scène identique à peu près à la même période.
He photographed.
Mais quand on observe la façon dont il a photographié ces femmes
and the way that Lee Miller
et la façon dont Lee Miller les a photographiées,
I think you can see when you put those photographs
quand on met ces clichés côte à côte,
each other,
on voit tout de suite que oui,
yes, the feminine gaze
il existe bien
exist.
Un
just
regard féminin.
The male gaze.
Tout comme il existe un regard masculin. Je crois qu'il est important de dire qu'en termes de mérite et de compétences et dans beaucoup d'autres domaines de la photographie professionnelle, il est impossible de distinguer le travail que font les femmes de celui des hommes. Mais il y a des moments et des sujets pour lesquels le sexe fait une différence.
Lee Miller never objectifies women.
Chez Lee Miller, les femmes ne sont jamais objectivées.
Lee Miller's version and Robert Capa's version together,
quand on prend la photo de Robert Capa et qu'on la compare à celle de Lee Miller, on voit clairement que Capa objective la femme tondue.
The humanity
il n'y a pas vraiment d'humanité.
Regardless of her sympathies or antipathy towards this woman,
tandis que quelle que puisse être son empathie ou son antipathie à l'égard de cette femme, Lee Miller ne l'objective pas. Elle la considère en tant qu'être humain, en tant qu'individu, et c'est ainsi qu'elle la représente.
Voici maintenant Liberté, écrit en 1942. sur mes cahiers d'écoliers, sur mon pupitre et des arbres, sur le sable, sur la neige, j'écris ton nom. Sur toutes les pages lues, sur toutes les pages blanches, pierre, sang, papier ou cendre, j'écris ton nom.
J'ai retrouvé Paul Éluard au téléphone, dans l'arrière-boutique d'une librairie. Il ne m'avait pas reconnu de loin. Il a fait signe de ne pas faire de bruit en voyant quelqu'un approcher. Il s'est même raidi en devinant un uniforme. Il n'est pas en très bon terme avec les soldats ces derniers temps. On avait si peu de choses à se dire. Comment je l'ai retrouvé, des banalités sur le temps. Nous sommes retournés à l'adresse dont je venais et où le concierge m'avait pourtant soutenu qu'il n'y avait personne ici au nom d'Éluard. Nuche était là. Une Nuche maigre, pâle et souriante, avec son accent alsacien, ses cheveux ondulés et son magnifique profil. Il ne restait presque plus rien d'elle. Si maigre, si menue, que ses coudes étaient plus épais que ses bras. Les os de son bassin pointés sous sa jupe. Son chemisier ne pouvait masquer les traces de la maladie et de la privation. Il n'y avait plus que son grand sourire et ses belles dents. Il vivait là, dans l'un des plus beaux appartements de Paris, crevant de faim. Les murs étaient couverts des plus célèbres œuvres d'art de Paris. Tout cela valait une fortune. Mais rien à manger. Pas de tabac.
Le siège de la presse alliée, c'est l'hôtel Scribe, près de l'Opéra, à Paris. Lee Miller est chambre 412. Seule femme parmi les hommes, certaines sont passées mais sans rester. Seul magazine de mode parmi les grands titres de l'information. Et l'une des rares à connaître Paris, puisqu'elle y a vécu. Parfois elle s'échappe, s'en va chercher d'anciens amis, des fragments de jeunesse. Beaucoup ont disparu. Puisqu'elle est à Paris, Vogue veut de la mode, le style de la libération, la réouverture des salons. Elle s'exécute sans entrain.
Marie-Louise Sens Limentour, jolie blonde, porte une redingote cintrée. Et beaucoup de perles autour du cou, pas de col. C'est étrange et très beau. Autour d'elle, des soldats américains dans leur jeep.
Sa salle de bain s'est changée en labo pour tirer ses films. Sur la petite table en pagaille de sa chambre, sa machine à écrire, Baby Hermès, une bouteille de cognac, un cendrier plein de mégots froids, et des pages, des brouillons qui trahissent son angoisse quand il s'agit d'écrire. Mais combien de photographes écrivent ? David Sherman est là aussi, son ami, son amant, son confrère, selon l'heure.
Elle est devenue très populaire chez les GI. Elle était sans prétention, ne jouait pas les top modèles. Elle ressemblait à un GI crasseux. Je pense que d'une certaine façon, la guerre l'amusait.
Parce que c'était un changement de la boredom.
Ça la sortait de l'ennui éprouvé à Londres pendant le Blitz. Ça la changeait des ennuyeuses séries de mode pour Vogue, dont je pense qu'elle les haïssait secrètement, comme un poison. Elle préférait être un GI qu'une photographe de mode. Et elle travaillait dur pour y arriver. Elle allait au front. Beaucoup de gens disaient, Kappa lui-même disait, le meilleur moyen d'avoir une photo, c'est de s'approcher le plus près possible du sujet. Lee allait le plus près possible. Elle est allée dans beaucoup d'endroits où elle n'était pas supposée être, où personne n'était supposé aller. Elle avait beaucoup de cran, beaucoup de courage.
Repartir au front, c'est la seule chose qui importe. Elle s'en va pour l'Alsace. Puis elle rentre dans sa chambre d'hôtel à Paris, développe ses photos. Des soldats, des villages éventrés, la neige glacée.
Le nouveau commandement du 15e régiment s'était installé au vieux pub. J'avais l'air d'être la bienvenue. Je pouvais faire sécher mes chaussures, emprunter des crayons, poser des questions et regarder par-dessus l'épaule du major Lieb lorsqu'il se penchait sur ses plans. Ses paupières étaient translucides de fatigue. Ses traits, ses os, ses cheveux, ses mains, tout avait l'air sur le point d'exploser calmement. Comme chez ces poissons d'eau profonde qu'on ne peut pas ramener à la surface. Le major Comiri avait l'air plus amer, comme d'habitude. Mais il ne l'était pas. Ses responsabilités laissent parfois entrevoir son humour. Le capitaine Old se balançait, les pieds près du feu,
le colonel Edson mangeait avec un agent de liaison français. Les agents de liaison français aimaient être invités ici, à la fois pour la cuisine et pour l'atmosphère d'estime mutuelle que le 15e régiment a pu installer depuis le midi de la France au sein de la 3e division. Ils avancent ensemble depuis longtemps. Ce soir-là, il faisait particulièrement froid. Dans la journée, il gelait déjà, et les ombres bleues de ce monde détruit se découpaient sous le soleil. Les faisans, les perdrix et le petit cerf étaient si habitués aux coups de feu qu'ils ne prenaient pas peur lorsqu'ils se faisaient tirer dessus pour finir dans le garde-manger. Une chouette morte et gelée était accrochée à une branche glacée, les yeux ouverts. Quelques chevaux beiges, hirsutes, conduits par une mule noire et maigre, galopaient devant une ambulance en route pour Ostheim, qui semblait plus dévastée que jamais. Des vaches abattues bordaient la route qui y mène. Toute la journée, le colonel Edson avait consulté les commandants des bataillons et des unités. Les ingénieurs vérifiaient leurs calculs au sujet des ponts, en fonction des derniers rapports. Chaque messager arrivait avec des heures de retard, obligé de marcher les derniers kilomètres. Tous étaient chaque fois submergés de questions. Par où es-tu passé? À quelle distance sont les pontons? Ce soir-là, sous la lune, des soldats avaient rampé jusqu'à l'orée des bois. Ils attendaient. Ils avaient froid, mais ils attendaient. Tandis que montaient les échos du dernier village conquis de ce côté du canal. Les tirs de l'artillerie étaient trop courts. Leurs traces pâlissaient au loin. Elle était rose. L'ennemi répondait par du blanc. À présent, la nuit était silencieuse. L'artillerie se taisait et attendait. Pendant que mes bottes séchaient devant le poêle en porcelaine, j'étais assise près du capitaine Harold Hayward. Il était calme et grand, il avait l'air fatigué et, je crois, déprimé. J'ai souvent vu sa jeep dans les forêts, dans des villes en ruines. J'entendais des voix. « Restez avec moi. Le soir tombe vite. » Comme un refrain pour repousser le monde de destruction et de haine.
C'est écrit au passé, c'est déjà du passé, et plus encore quand ce sera publié. Vogue est mensuel. Et c'est du lointain passé, lorsqu'on se penche sur ces pages désormais sous protection plastique, rassemblées dans d'épais classeurs au deuxième étage de Farley Farmhouse.
Très bizarre. J'ai toujours douté du fait de s'en remettre à Dieu pour la victoire. Cette idée de prier, d'implorer le miracle d'une retraite de l'ennemi. Et j'ai toujours été consternée par l'attirail de l'évêque dans le désert, sur le pont d'un porte-avions voué à être coulé, ou dans les vestiges d'une église bombardée de Londres. Toute ma vie, j'ai été profondément, sincèrement, anti-religieuse. Ce soir-là, le capitaine Hayward circulait parmi les compagnies et les pelotons au repos, ainsi que parmi ceux qui venaient juste de rentrer du combat. Le nouveau venu, comme le plus ancien, connaissait l'histoire de leur division. Carabiniers chevronnés ou remplaçants désorientés, ils partageaient dans la prière l'aveu de leur humilité. Il y a 6 semaines, j'aurais trouvé dommage d'hypnotiser ainsi les foules. Aujourd'hui, je pense que la plus petite chose en commun qui peut rapprocher les hommes, qui peut créer l'illusion de la sécurité, vaut bien une cargaison de 200 obus. Si j'étais mauvaise, je pourrais lire tous ces hymnes d'une voix qui vous ferait haïr le plus tendre des poèmes, ou qui ferait passer la plus sincère des lettres pour un mensonge. Mais ces hommes sont sans arrière-pensée, sans sarcasme. Ils partagent quelque chose de familier. rapportés de chez eux.
What Hilary Roberts
photography can do
avec la photographie,
is frame a moment.
On peut capturer un moment
which embodies a genuine personal
qui incarne une expérience personnelle, réelle.
Movies
et c'est perceptible.
Force a certain narrative.
Les films vous imposent un certain récit.
With which you can agree or you
vous n'êtes pas obligé d'y souscrire.
Absolutely an
mais il n'y a pas d'interprétation possible.
A photograph
une photographie
is more open
est plus ouverte
to
à
interpretation.
L'interprétation.
It can tell you what to think,
même si elle vous dit quoi
but
penser,
you can view it in many different ways.
Il y a toutes sortes de façons de la regarder.
What I find so fascinating about
ce que je trouve fascinant dans les photos de Lee Miller,
you can enjoy them for
c'est qu'on peut les apprécier pour leur beauté,
for their skill,
pour leur savoir-faire,
for their information,
ou pour les informations qu'elles fournissent.
But they often have
mais elles ont souvent des sous-textes et des références
which add to their potential.
Qui ouvrent un autre niveau de lecture.
I think, can shape a narrative, but
la photographie peut esquisser un récit, mais elle vous encourage à le remettre en question.
Feature films,
ce qui n'est pas le cas du cinéma,
always include an element
qui comprend
of fiction,
toujours une part de fiction.
À gauche, en haut de la page, il est écrit Lee Miller, correspondante de guerre, Hôtel Scribe, Paris. À droite, Audrey Withers, Vogue, One Bond Street, London. C'est la rédactrice en chef, celle qui l'a envoyée sur le front, celle qui reçoit ses articles, les relit, les corrige, et qui voudrait sentir l'élan de la libération, de la victoire. Mais de retour du Luxembourg, Lee Miller est amère.
Cher Audrey, c'est difficile ce que tu me demandes. Si je trouvais la foi dans la libération, je pourrais donner forme à quelque chose. Ondulation d'une banderole, agitation d'un drapeau, mais la libération n'est pas très inventive. Et c'est très monotone de regarder toujours la même scène. Chacune ressemble à celle de la veille. D'abord, c'est une orgie de baisers, rations et provisions qu'on s'envoie dans la figure dans une grande fête bon enfant. Puis, le lendemain, c'est la gueule de bois et la pénurie. Les azous rejoignent subitement le maquis. Les moindres suspects sont tondus et jetés en prison. Les plus coupables s'en sortent. Les gouvernements de retour d'exil rêvent éveillés. L'armée, qui pense que ces gens vont prendre en charge les problèmes, se retire pour ne pas être dictatoriale et les laisse tergiverser et procrastiner. Personne n'a le cran de dire à cette foule que nous ne tiendrons pas notre promesse de chargement de café, de chocolat, de soie, de pétrole, parce que nous les avons libérés un an avant la date prévue. Alors, l'attente d'une main qui les guide, d'une voix forte qui leur donne une direction, devient trop longue. Ils retournent au marché noir, où les prix sont encore plus élevés à cause des dernières batailles. Les villes sont hors limite. Les soldats s'ennuient. Les escrocs disent que c'était plus simple du temps des Allemands, ou qu'il serait mieux avec les Anglais ou les Américains, et vice-versa. Tout dépend de ce qu'ils trouvent à leur porte. Nous tentons de désarmer le maquis, mais ils ont pris conscience de leur force et voient les choses autrement. Le public, qui n'a jamais entendu parler de la Convention de Genève, se plaint qu'on traite trop bien les prisonniers allemands et qu'on les nourrisse. Je vais essayer de mettre tout ça sous forme visuelle. Pour ma part, je préfère décrire les villes détruites, les vies blessées, que d'affronter cette morale déjà abîmée, cette foi détruite de ceux qui pensent que les choses seront ce qu'elles ont toujours été, et la désillusion de nos armées qui se demandent « Est-ce que ça valait le coup de sauver l'Europe ?» Je ne me rappelle pas ce que j'imaginais de la libération au début de la guerre. Nous parlions de l'âme meurtrie des Européens et combien ils seraient inadaptés à la vie normale. Je m'attendais peut-être à ce qu'ils soient différents d'avant. Ce n'est pas ce que j'ai trouvé. Il n'y a pas de signe de changement. Mais ils sont malades. Atteints par un genre de microbe invisible. Une sorte de dévitalisation. La malnutrition mentale des quatre dernières années a sapé leur force. Ils débordent de l'instinct de préservation et manquent d'autonomie. On ne voit pas qu'ils sont malades, et je ne sais pas si c'est curable. pour beaucoup de choses, ils ne distinguent plus le bien du mal. Ils me font penser à un homme bien habillé et apparemment sain d'esprit qui peut faire croire qu'il est toujours le conducteur du tram, alors que l'hôpital psychiatrique lui a simplement signé une permission de sortie pour la journée. Non, la libération n'est pas si belle. Il y a les joyeuses improvisations du vin et des chansons, la magnifique coloration de la liberté, mais il y a les ruines et la destruction, les problèmes, les fautes, les espoirs déçus, les promesses non tenues, l'inefficacité malgré les bonnes intentions. Et il y a les considérations militaires.
She makes you see what she is trying to describe.
Elle fait apparaître and ce qu'elle décrit sous vos yeux.
Her style is definitely American.
Son style est très américain. Elle utilise des mots d'argot
at
américain.
There was a formality.
À l'époque, il y avait un formalisme dans le journalisme britannique,
which Lee Miller
qu'on ne retrouve pas chez Lee Miller.
I think that lack of formality.
Et je pense que c'est cette absence de formalisme, presque une absence de vernis, qui rend ses écrits tellement plaisants.
But also the
mais aussi cette façon qu'elle a
she can evoke a scene
d'évoquer une scène de façon si vivante
she can make you see it
qu'on a l'impression de la voir apparaître à travers ses mots.
See the picture that relates to those words. You can
on n'a pas besoin de voir la photo qui va avec.
And you're there.
On n'a qu'à lire ses mots
that is
et on y
what
est.
Makes her writing so successful.
C'est pour ça que ses reportages ont eu un tel succès.
Et puis vient le franchissement du Rhin, aux côtés de la 3e division américaine du général Mike O'Daniel, de la 5e division blindée française et des Goum, ces soldats de l'infanterie venus d'Afrique du Nord. Ils sont désormais en Allemagne. Ils ne sont plus des libérateurs. Plus personne n'a de nouvelles de Lee, sinon sa rédactrice en chef.
Cher Audrey, je suis heureuse que tu aies aimé l'article tel qu'il était. Je suis désolée de ne pas avoir eu le temps de le construire un peu mieux. Il y a des tas de choses sur lesquelles je n'ai pas le temps de me pencher, particulièrement l'armée française. Elle suscite mon enthousiasme plus que notre propre armée. Ils ont un courage démentiel. Ils se précipitent vers l'ennemi avec une incroyable férocité. Ils sont difficiles à entraîner. Ils ne respectent pas forcément les rendez-vous et les accords, ce qui déplaît à notre infanterie. Mais quand ils se lancent, ils sont difficiles à arrêter. Le général O'Daniel dit qu'ils ne sont ni meilleurs ni pires que nos soldats, mais qu'ils sont différents. Ils n'aiment pas trop la communication, la planification, et ils sont capables de foncer vers une ville dont la prise n'était prévue que le lendemain.
J'ai connu tous ces photographes parce que je les ai vus aux expositions. J'ai vu dans les archives, j'ai grandi avec, mais ce que je ne connaissais pas, c'était son écriture.
Amy Penrose Boissan, sa petite fille, s'est assise sur le banc, contre le bâtiment qui contient toutes les photos de sa grand-mère.
Et la plupart des manuscrits qu'elle raconte, ils commencent comme lettre à son éditeur. Et comme c'est comme elle parle avec une copine de qu'est-ce qui s'est passé. Je crois que c'est ça qui le fait si réel. C'est comme vous êtes là à côté d'elle en train de regarder ce qui s'est passé. Et le moyen qu'elle parle, ce n'est pas des grands proverbes que d'une grande écriture et des gros mots. Elle parle comme elle pense. Et comme ça, vous croyez que vous êtes avec elle. Même quand ils ont écrit quelques-unes, ils ont écrit ça fait plus que 70 ans. Vous croyez que ça passe maintenant?
Je pense que les femmes des services français mériteraient un article rien que pour elles. Elles sont en première ligne à conduire les ambulances, comme travailleuses sociales. Elles vivent la même vie que ceux de l'artillerie. Elles nourrissent et guident les civils des villes que nous avons reprises. Des centaines d'entre elles travaillent au rapatriement des réfugiés et beaucoup ont été formées pour s'occuper des prisonniers et des déportés libérés. Bizarrement, les Français qui n'encouragent pas les femmes à faire carrière, qui ne supportent pas qu'elles portent des pantalons ou soient décoiffées, pensent qu'il est parfaitement normal de les voir dans la bataille, partageant les dangers et l'inconfort, occupant des rôles de femmes. Jamais avec les Français, je n'ai entendu cette remarque que j'entends toujours avec les Américains.
Qu'est-ce qu'une femme peut bien faire là ? Hé, Mac, viens voir. Il y a une vraie fille de chez nous. Qu'est-ce que vous faites ? Vous êtes infirmière ? Ça alors ? Pour quel journal vous travaillez ? Vogue ? Vous voulez dire Vogue ? Qu'est-ce que Vogue peut bien faire ici ? Prendre des photos ? De quoi ? Comment on porte notre tenue de camouflage ? Oui, parfois. Mais je croyais que c'était un journal de mode avec ces horribles chapeaux de Paris. Est-ce que ma femme va voir ma photo dans Vogue ? Si j'en prends une bonne, oui. Mais qu'est-ce que Vogue a à faire de ce qu'on fait ? Mes rédacteurs en chef s'y intéressent. Et les femmes ne lisent pas les journaux des hommes. Et on pense qu'une femme peut voir et raconter les choses différemment. Mais ça veut dire que vous pouvez rentrer quand vous voulez ? Que vous êtes là parce que vous le voulez ? Oui. Vous êtes dingue. Laissez-moi allumer votre cigarette. Ça fait une éternité que je n'ai pas allumé la cigarette d'une Américaine.
Elle avait rien de beau à écrire. Elle voulait pas que... On sait que son éditeur, Audrey Withers, à Vogue, à Londres, elle a caché les manuscrits qu'elle a écrits de quelques conflits et aussi de des camps. Parce que Roland est parti chez elle, il lui demandait « Est-ce que vous avez entendu des nouvelles de Lee? Est-ce qu'elle va bien ?» Puisqu'il n'a pas de lettres. Elle lui a dit « Oui, oui, elle va bien. Est-ce que je peux lire ce qu'elle a lui caché ?» Elle ne lui montrait pas parce qu'elle ne voulait pas lui concerner, de lui faire inquiète. Elle voulait protéger Lee en même temps.
Manger et dormir sont faciles. Ou alors vous manquez de tout comme tout le monde. Voyager est plus compliqué. Tous mes trajets de nuit, je les fais dans des ambulances. Car dans l'obscurité, tu ne vois pas venir les voitures. Et il n'y en a pas beaucoup de toute façon. À part les véhicules blindés qui rejoignent leur position et les camions bourrés de munitions qui s'en vont livrer vers une destination inconnue. Le problème, c'est que les ambulances sont pleines. Même quand il n'y a pas de blessés. Les pieds gelés, les malades, les épuisés. S'il y a de la place, je suis la bienvenue. Le voyage secoue. Et l'ambulance n'offre aucune sécurité parce que la Croix-Rouge sur la carrosserie est invisible dans la nuit et que les Allemands se contrefichent de savoir que les hommes dans ce véhicule ne sont plus des combattants. Mais ces hommes n'ont plus peur. Enfin, ils ne voient plus les obus exploser, les fusées éclairantes et les éclairs de l'artillerie. Ils fixent l'obscurité. Au prochain arrêt, tout le monde descend. Et j'attends de la place dans la prochaine ambulance. Le chauffeur, lui, repart d'où il vient, à vide. Le commandant général des équipes médicales, le général Hawley, m'a dit en juin dernier qu'il y aurait toujours un lit et un toit pour moi dans leur infirmerie. Ça s'est vérifié, le jour comme la nuit. Marcher dans ces infirmeries de fortune, frôler de la cheville les blessés et les brancardiers au repos dont le corps dessine des petites bosses sous une couverture kaki, me fait me sentir Gulliver. J'ajoute mon corps au leur, une autre petite colline kaki, à moins qu'il n'y ait quelque chose à faire. Parfois je peux aider, sinon je me fais discrète. L'autre nuit, c'était le cas. Il a fallu traire les vaches alors que les bombes s'étaient tues, porter cette femme énorme et épuisée, égarée, au milieu d'un champ. Les Américains ne pensent pas à utiliser les prisonniers pour ramener les blessés des champs de mines. Ils préfèrent risquer leur propre vie pour ramener un soldat, même un ennemi, plutôt que de regarder un Boche marcher à tâtons. La pire des choses, c'est de ramener un copain dont tu ne reconnais plus le visage, de frôler un copain mort pour aller chercher un blessé que tu n'es pas sûr d'atteindre.
I mean, her hatred increased.
Sa haine s'est accrue.
Obviously,
bien sûr,
she had been concerned from the outset for.
Elle s'était très vite inquiétée pour ses amis en France.
Many of whom were.
Dont beaucoup avaient des liens avec la résistance ou faisaient partie des artistes censurés par le régime. Beaucoup aussi étaient juifs. Au moment où elle est arrivée en France, La plupart des hommes avaient été envoyés dans des camps de travail en Allemagne.
Mais
quand elle a traversé la frontière avec l'Allemagne, à Aix-la-Chapelle, elle a écrit que la ville semblait épargnée par la guerre, qu'elle semblait normale.
With her experience of what Germany had done.
Elle avait du mal à faire le lien entre les rumeurs et sa propre expérience du comportement allemand jusque-là. Et puis à Cologne, elle a visité une prison de la Gestapo où on avait exécuté des Français et d'autres, mais aussi des Allemands. Ils exécutaient encore leurs propres concitoyens. Des hommes et des femmes, quelques minutes avant l'arrivée des forces américaines. L'horreur de cette scène l'a brusquement fait changer de point de vue. Et plus elle en apprenait, plus elle en voyait, et plus ce changement s'intensifiait. Il est important de se rappeler qu'elle écrivait pour un mensuel de mode au tirage très limité. Elle n'écrivait pas pour un quotidien ni pour un périodique d'actualité comme Life Magazine ou Picture Post. Rien de ce qu'elle faisait n'était publié dans ce type de journal. Elle écrivait pour un magazine dans lequel l'actualité passait au second plan. Il y a beaucoup de choses qu'elle a vues, mais qu'elle n'a pas pu photographier parce que le magazine n'était pas en mesure de publier de telles photos. Sans parler du fait qu'il y avait beaucoup moins d'espace disponible qu'en temps de paix. La plupart de ses reportages de guerre n'ont donc pas pu être publiés parce que le magazine n'avait pas les ressources pour le faire. L'absence
est
importante ici. C'est tout ce qu'elle n'a pas pu ou n'a pas voulu photographier. Tout simplement parce qu'elle savait que ce ne serait jamais vu, qui nous permet de comprendre comment sa haine s'est développée. Elle en a vu bien plus que ce qu'elle pouvait couvrir et raconter.
Quel jour exactement entre-t-elle dans le camp de Buchenwald?
Die amerikanische Armee kommt im Prinzip am 11. April 1945 nach Buchenwald. Das ist der Tag der
L'armée américaine arrive le 11 avril 1945 à Buchenwald. C'est le jour de la libération, de l'auto-libération. Les SS disparaissent déjà les jours précédents. Il ne reste alors que quelques gardes SS dans le camp. Et le 11 avril, on voit les chars américains arriver au loin. C'est alors que les derniers gardes sont désarmés par les détenus. Et c'est la libération.
Lee Miller est entré avec l'armée?
Oui, mais pas avec les premiers arrivés. Les premiers Américains qui arrivent ici font partie de la troupe combattante. Il n'y a jamais de correspondant de guerre parmi eux. Ceux-ci arriveront quelques jours plus tard. Nous ne savons pas exactement quel jour Lee Miller arrive. Un peu après le 11 avril.
Était-elle la première photographe ?
Non.
Non, les premiers photographes sont des photographes de l'armée américaine. La première photo date, je crois, du 12 ou 13 avril. C'est alors que les premiers photographes de l'armée américaine arrivent à Buchenwald et prennent des photos. Lee Miller arrive quelques jours après. Elle porte certes l'uniforme américain, mais elle est envoyée par le magazine Vogue. Elle travaille pour Vogue.
Holm Kirsten est historien à Buchenwald, en charge des archives photographiques. Il marche avec nous dans ce qui reste du camp. Il a des copies des photos de Lee Miller entre les mains.
Toute l'administration SS, le commandant du camp et les officiers haut gradés ont déjà tous disparu dès les 5, 6, 7 et 8 avril. Il ne reste plus que quelques jeunes hommes pour garder le camp. Ce sont presque tous des volontaires ukrainiens qui, en fait, ne sont arrivés que durant les derniers mois de la guerre pour surveiller le camp du haut des Miradors.
Zur Lagerbewachung auf den Lagertürmen. Und man sieht die meisten dieser
La plupart d'entre eux essaient également de prendre la fuite. Und die Häftlinge machen mais les détenus les pourchassent.
Die verstecken sich hier in den
umliegenden Ils se cachent dans les bois alentour et la majorité est tabassée à mort sur le champ.
Und der amerikanische Lagerkommandant
Le commandant américain du camp, Lawrence Schmuhl, décrit tout cela comme quelque chose d'épouvantable dans son journal.
Beschreibt das als sehr entsetzlich, der findet das ganz schlimm, der möchte, dass die natürlich
leben. Il en est effrayé, il veut évidemment que tous ces gens soient arrêtés vivants et qu'ils soient traduits en justice, mais surtout pas qu'on les tue tous directement.
Und diese Aufnahme entsteht im
On voit aussi qu'ils ont tous été battus. Cette photo est prise dans le bâtiment qui abrite les cellules des détenus.
Voici des photos de Buchenwald, camp de concentration atypique pour les gens qu'ils n'aimaient pas. Je vais probablement t'épargner mes écrits sur le sujet, à moins que tu ne me le réclames. Je ne prends pas de photos des choses dont je sais que tu ne les retiendras pas. N'en déduis pas qu'elles sont rares. Chaque ville a son camp de concentration, certains pour la torture, d'autres pour l'extermination. Bon, je n'écris pas là-dessus aujourd'hui. Mais lis la presse quotidienne. Tu dois croire chaque mot de ce qui est écrit. Je serais très fière que Vogue prenne en compte ce qui est raconté.
Today, we have lived with that knowledge.
Aujourd'hui, on a vécu toute notre vie avec cette connaissance. Mais à l'époque, il était presque inconcevable qu'une telle horreur soit possible.
So, the shock.
De nos jours, on ne peut pas vraiment imaginer le choc et les émotions que ça a fait naître chez ceux qui en ont été témoins.
Something that we cannot.
Même si on est toujours horrifié quand on voit des films, des photographies.
There is a photograph by Lee Miller of a railway wagon.
Il y a un cliché de Lee Miller qui montre un wagon ouvert, rempli de cadavres empilés les uns sur les autres. En soi, c'est déjà très choquant. Mais pour Lee Miller et tous ceux qui étaient là, il y avait aussi l'odeur, il y avait le bruit. Il y a eu un avant et un après. C'est une expérience qu'on n'oublie jamais.
Die Lager auf reichsdeutschem Gebiet, sage ich mal.
Les camps situés sur le territoire du Reich.
Buchenwald, Dachau, Sachsenhausen,
Buchenwald, Dachau, Sachsenhausen, Ravensbrück. Il y en avait d'autres plus petits.
Das sind keine
n'étaient pas des camps d'extermination, mais soi-disant des camps de travail.
Vernichtung durch Arbeit spielt hier natürlich
L'extermination par le travail jouait aussi un rôle important. Surtout dans les dernières années de la guerre. On a exploité les détenus par le travail jusqu'à la mort pour l'industrie de l'armement. Et cela existait aussi à Buchenwald et dans tous ces camps des alentours. Buchenwald possédait un immense réseau de camps extérieurs. C'est là surtout que les détenus ont dû travailler pour l'armement. Ici, au premier plan, c'était la place d'appel. C'est ici que les détenus devaient se présenter matin et soir pour qu'on les appelle. Là-bas se trouve la cantine des détenus où ils pouvaient s'acheter des petites bricoles, du dentifrice, du cirage à chaussures, ce genre de choses.
Zahncreme, Zahnpasta, Schuhcreme und so ein Quatsch. Also,
en fait, on avait installé cela uniquement dans le but de leur prendre encore plus d'argent. Ils n'en avaient déjà plus sur eux, mais il en restait un peu dans les poches de leurs vêtements civils conservés dans le bâtiment de l'entrepôt. Ou alors ils demandaient à leur famille de leur en envoyer. Les SS soutiraient cet argent en leur proposant des choses de mauvaise qualité. Là-bas, il y a le crématoire avec la pathologie à côté.
die ehemalige Desinfektion.
Et à droite, à côté, c'est l'ancien bâtiment de la désinfection. Quand les détenus arrivaient, on les désinfectait, on leur enlevait leurs habits, on leur remettait les vêtements de prisonniers, et puis on les répartissait dans les baraquements. Ceux-ci se trouvaient par là. Et à partir de ces bandes d'herbe, enfin, ce n'est plus vraiment de l'herbe, on voit encore un peu les contours des anciennes baraques. Juste quelques traces. On a en partie recouvert de gravier l'endroit où elles se trouvaient pour reconnaître l'emplacement.
Grundfläche. Okay, und es gibt noch einige Wachtürme.
Il reste encore quelques miradors. Voilà les deux principaux qu'on peut voir dans le prolongement de l'entrée principale.
Gibt es da unten in dem Gelände, das Gelände ist insgesamt noch viel viel größer.
Et puis, il y en a d'autres plus bas sur ce terrain qui en vérité étaient beaucoup plus grands. Il disparaît aujourd'hui dans la forêt.
Befand sich das kleine Lager von Buchenwald.
Tous ces arbres n'existaient pas. Dans la forêt actuelle se trouvait le petit camp de Buchenwald. C'était une sorte de camp à part qui a été construit en
1944.
C'est un agrandissement du camp principal pour accueillir tous les nouveaux détenus qui arrivaient à Buchenwald.
Zusätzlich noch nach Buchenwald kommen aufzunehmen. Die Zeit der stärksten Belegung,
fin 44, début 45, c'est le moment où le camp est le plus peuplé, lorsque l'armée rouge avance vers la Pologne et que tous les camps à l'est, tels que Groß-Rosen et Auschwitz, se sont évacués.
Geräumt werden und die landen dann, die werden dann alle noch hierher gebracht.
Ils atterrissent tous ici.
C'est
en fait un camp de mourants. Un camp intermédiaire vers la
mort.
Lee Miller n'a pas pris de photo ici. Beaucoup n'ont pas osé entrer parce qu'ils craignaient les épidémies.
6 juin, les photos des prisonniers capables de marcher qui vont à la cérémonie à la mémoire des morts. Les autres parlent d'elles-mêmes. Les eaux. Le crématorium.
C'était l'entrée ?
Oui. Enfin, la vraie entrée, ce chemin ici était appelé le chemin Caraco, parce qu'il fallait le parcourir à toute vitesse. Et là, au premier plan, se trouvait une station essence. Ici, ce sont les garages de la Kommandantur. Et devant se trouvait un portail officiel. Ce portail menait en principe à tout le domaine, aussi pour les SS et les autres. Ce portail, aucun civil, aucune personne étrangère ne pouvait le franchir. Et la véritable entrée du camp était là-bas devant. Et si on avance un peu plus, nous apercevrons la tour et le portail lui-même. Et tout ce domaine ici appartenait aux SS.
Et...
Mais oui, il ne reste plus beaucoup de bâtiments.
C'était le troisième épisode de la Grande Traversée Lee Miller, avec Anthony Penrose, Amy Penrose-Boissan, Holm Kirsten, Hilary Roberts, et les voix d'Evelyne Guimara, Laurent Lederer, Clara Chabalier, Joachim Salinger. Prise de son, Andreas Jaffray. Mixage Guillaume Ledu. Traduction Céleste Carlin, Jeanne Guéroux. Réalisation Gaël Gillon. Une émission de Judith Pérignon.